Bonjour à tous, alors bienvenue dans Soundtrack, donc c'est la 34e émission quand même hein, depuis que nous avons commencé. Et donc pour cette reprise de mois de septembre,
et eh bien... Et oui, bonjour, et nous espérons que vous avez passé tous de bonnes vacances.
Oui, quand même, voilà, un peu pluvieuse peut-être pour certains, mais ceux qui sont restés dans le coin. Et donc aujourd'hui... L'émission va être consacrée donc aux films qui ont été tournés dans le département. Donc bien sûr, on s'attache toujours à la partie musicale hein, de ces films. Et donc il faut savoir que bah, depuis une centaine d'années, hein, il y a plus de 400 longs-métrages qui ont été tournés en Normandie. Alors en noir et blanc comme en couleur, hein, muet comme parlant, en costume et en cinémascope, des drames, des comédies... Alors, la Normandie des plages, évidemment, les galets d'Étretat, les planches de Deauville ou les parapluies de Cherbourg. Mais dans l'heure, c'est plutôt le monde rural hein, qui va être représenté sous les pommiers, souvent, comme dans le Trou Normand, par exemple, le Rosier de Madame Husson. Ou des châteaux comme celui de Bizy pour le tonnage du colonel Chabert, mais aussi sur les voies ferrées, comme pour la bête humaine ou le train. Et donc, dans cette émission de rentrée, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir un témoin hein, de certains de ces tournages, donc Eric, voilà, qui peut vous dire bonjour. Non, Eric
ne veut pas dire bonjour.
Bonjour à tous, bonjour. Voilà, et qui va donc nous commenter quelques-uns de ces films, puisqu'il a pu assister à quelques-uns de ces tournages. Donc, nous allons tout d'abord parler de deux films, justement, qui parlent de train. Alors, on va vous passer tout de suite un petit extrait de train. Vous allez pour vous mettre dans l'ambiance. Voilà, donc ça, c'est un extrait de La bête humaine. Alors, c'est un film qui se passe en entier hein, dans l'univers des chemins de fer. Il s'ouvre sur une séquence assez impressionnante hein, de l'enfer dans un poste de conduite d'une locomotive à vapeur de type Pacific 231, pour les connaisseurs en train ou de la SNCF. Alors, d'ailleurs, pour l'occasion, la SNCF avait accordé de gros moyens hein, à l'équipe de tournage, en apprenant même à Jean Gabin à conduire un train. Donc, on va tout d'abord écouter une jolie petite chanson hein, du train, là, voilà, qui s'appelle « Le petit cœur de Ninon ». Et on va vous en parler après.
Viens rentrer.
Non !
Mais puisque tu n'aimes pas le bal ?
Tu ne trouves pas bien ici ? C'est toi qui as voulu qu'on vienne. Et puis l'entier va peut-être revenir. Je peux bien l'attendre 5 minutes.
Le petit cœur de Ninette, je vous le dis tout bas, à tout venant se prête, mais ne se donne pas. Tant pis pour qui s'entête à lui faire la cour. Qui veut aimer Ninette doit souffrir de l'amour. Le petit cœur de Ninon est si petit, est si gentil, est si fragile. C'est un léger papillon. Le petit cœur de Ninon. Le pauvre est parfois coquet et peu docile. C'est pas sa faute, non. Au petit cœur de Ninon.
Ah bah dis donc, un morceau hein, qui est d'une époque un petit peu lointaine. Mais ce chanteur, mon Dieu qu'il chante bien, ça c'est une belle voix de ténor. Bon, bah, le morceau, hein, c'est ce que c'est, mais il est composé par Cosmage. Alors, je pense que c'est Joseph, parce que Vladimir, il devait être tout petit à l'époque.
Voilà, je me suis trompée en écrivant le nom dans le...
Mais, oui, oh, puis la voix de Carré, quel plaisir d'entendre ça. Ah oui.
C'est... Voilà, alors, bon, Carré, c'était un des acteurs, hein, donc il est le copain de Jean Gabin dans le film. Mais la chanson, elle est interprétée par Marcel Véran, donc qui chante là, alors ça se passe à un moment d'un bal, voilà, où il se retrouve, etc. Et en fait, il n'a même pas été crédité hein, au générique du film. Voilà. Et on va retrouver d'ailleurs cette même musique en instrumental dans un autre moment du bal. Donc, les paroles sont de Georges Milandy et la musique, là, est d'Ernesto Beccucci. Alors, je ne sais pas si je prononce bien l'italienne.
Oui, un petit détail sur les gars qui conduisaient les trains. J'avais entendu dire que, par exemple, sur la ligne Paris-Cherbourg, il se faisait entre quelque chose de 6 ou 8 tonnes, voire 10 tonnes de charbon à mettre dans la chaudière à la pelle. Comme quoi, c'était un dur métier hein.
Ben, il fallait être musclé, là. Hein, voilà. Donc, La Bête humaine, qui est un film français réalisé par Jean Renoir, qui est sorti en 1938 et qui est une adaptation du roman d'Émile Zola. Donc, le synopsis, hein, c'est Jacques Lantier, interprété par Jean Gamin. Il est victime de pulsions meurtrières, mais il ne se trouve bien qu'en compagnie de son chauffeur, Pequeux, donc Julien Carrette, dont Jean parlait tout à l'heure, sur la Lison, la locomotive à vapeur, avec lesquelles ils font la ligne Paris-Le Havre. Mais pour son malheur, il rencontre Séverine, interprétée par Simone Simon, dont le mari Roubaud, interprété par Fernand Ledoux, le sous-chef de guerre du Havre, vient d'assassiner Grand Morin, le parrain de la jeune femme, à qui elle avait cédé. Séverine devient sa maîtresse et bientôt, elle suggère à Lantier de supprimer son encombrant mari. Et sous l'empire d'une crise de Lantier, c'est elle qui est tuée. Et revenu à bord de sa machine, il avoue son crime à son compagnon Pequeux et pris d'un accès de désespoir, il se suicide en se jetant du train en marche. Voilà, donc vous voyez...
Ta-ta-ta-ta.
Voilà, c'est ça. Alors à savoir qu'évidemment, l'histoire se passe sur la ligne donc Paris-Le Havre, mais il y a des scènes bien sûr qui ont été tournées en fait sur la ligne Paris-Cherbourg, hein, puisque ça a été tourné dans le coin. Alors je vous dis comme ça, hein, le tournage donc a été fait entre août et septembre 1938. Alors en partie au studio de Billancourt, puis en extérieur à la gare Saint-Lazare, à la gare du Havre, à la gare de Bréauté-Beuzeville, dans Rouen et ses environs, mais il y a également 2 jours de tournage au passage à niveau de Méry-Broy-Pont et sur le talus au niveau du pont de Passy-sur-Eure. Ces deux villages sont bien sûr sur la ligne Paris-Cherbourg hein, et donc non sur la ligne Paris-Le Havre, comme présenté dans le film. Alors Eric, tu as pu assister à un tournage, à ce tournage ?
Ah bah, j'ai assisté à un tournage du film Le Train en 1963. Enfin, une
tournage... Non, mais là, on parle par rapport à celui ici, là, de La Bête humaine, c'était bien trop vieux, ça, pour que tu puisses...
Ah bah, bien sûr, voilà, bien sûr, bien sûr. Bah, voilà. Moi, j'étais même pas né.
Voilà, t'étais pas encore né. Hein.
Mais donc, je peux pas raconter grand-chose. Mais enfin...
T'as pu après parler...
Enfin, j'ai vu le film, comme tout le monde, et puis plusieurs fois, bien sûr, et puis voilà. toujours avec le même plaisir.
Voilà, c'est ça.
Donc... Mais je ne peux pas en dire plus.
Voilà, parce que là, tu n'étais pas né, là.
Ce qui est marrant quand on voit le film, c'est voilà. que la gare Saint-Lazare, elle n'a pratiquement pas changé.
Ah non, pratiquement pas. C'est toujours pareil. Quoi.
Voilà.
Ouais, ouais.
Donc, du coup, voilà. Bon, on va reparler de ce que tu as pu voir après par rapport au film Le Train. Et donc là, du coup, on va passer la petite chronique de Jean-Paul, donc de notre professeur Alphonse Siné, sur la voix off.
La voix off est un procédé narratif utilisé dans les films. Il consiste à faire intervenir, au cours du déroulement d'un plan, d'une séquence ou d'une scène, la voix d'un personnage qui n'est pas vu dans ce plan. Ce personnage peut être un de ceux que les spectateurs ont déjà vus dans le récit, ou un narrateur sans visage, éventuellement omniscient et doué d'ubiquité, qui les guide dans des moments décisifs du film. La voix off est toujours partie prenante de l'action, dont elle est un élément moteur, explicatif et correctif. Trois cas de figure font principalement intervenir la voix off. Premièrement, le narrateur est absent de l'image, mais fait partie de l'histoire du film. Deuxièmement, le narrateur est présent à l'image, mais ne parle pas à l'écran. Ses lèvres ne remuent pas. Troisièmement, le narrateur ne fait pas partie de l'histoire. Ces trois cas de figure répondent à trois fonctions. Première fonction, c'est le cas de film qui repose sur le procédé de l'histoire racontée par la totalité du film, ou une partie seulement, illustre ce que raconte un personnage, soit sa propre histoire, soit une histoire qui lui est extérieure. Deuxième fonction, si on voit le narrateur à l'écran, mais sans qu'il semble y prononcer les paroles qu'on entend en off, c'est qu'il s'agit soit de pensées intérieures, soit encore une fois du cas de l'autobiographie. La voix et l'image ne renvoient pas à la même situation d'énonciation. Il y a un décalage temporel entre les deux. Troisième fonction, il s'agit d'un narrateur qui n'a pas de lien avec l'histoire racontée. La voix off n'a pour but que d'informer.
Eh bien, Maurice Jarre, hein, qui a écrit cette musique, et c'était quand même un sacré monsieur, celui-là aussi. Il bon, y a du classique, il y a de la musique militaire, à la fin, un petit coup d'accordéon. Et c'était un, ouais, un sacré monsieur. Ouais.
Donc, pour rappel, par exemple, c'est lui qui a fait la musique de Laurence d'Arabie. Hein, par
oui,
exemple.
Bah oui, Paris brûle-t-il aussi. Mmh. Oui, non, non, c'est... Ah ouais, non. Dommage que son fils n'ait pas hérité du talent. Il a hérité du sens commercial de la musique, ça c'est sûr, mais le talent, on ne l'a pas beaucoup vu.
Voilà, mais on consacrera bientôt une émission entière à Maurice Jarre.
Ah oui, oui.
Bah oui.
Ah oui, il mérite bien. Là. Ah
oui. Donc, Le Train, c'est un film franco-américain réalisé par John Frankenheimer qui est sorti en 64. Bon, là, t'étais né, Eric, quand même, en 64. Je me trompe pas,
quand
là.
Même. Ah, oui, voilà. Oui. J'avais 14 ans. Là.
Ouais, voilà. Le scénario donc, du film s'inspire en partie de l'action de la résistante Rose Vaillant pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, en août 1944, hein, le colonel von Faltheim, interprété par Paul Scofield, fait évacuer les tableaux des maîtres de la Galerie nationale du Jeu de Paume pour les envoyer en Allemagne. Et Paul Labiche, interprété par Paul Lancaster, un cheminot résistant, est engagé pour conduire le train transportant ces objets d'art. Mais avec l'aide de ses compagnons résistants, il va faire en sorte que le train et les tableaux n'arrivent jamais à destination. Alors, l'histoire au départ ne se situe pas en Normandie, hein, mais dans l'est de la capitale. La production américaine décide d'y tourner plusieurs scènes en faisant appel à un assistant, Bernard Farel, et quelques acteurs français comme Michel Simon, Albert Rémy, Jacques Martin, Suzanne Flon et Jeanne Moreau. Bien entendu, à aucun moment notre région est citée dans le film, hein, puisque c'est pas censé s'y passer. Donc Rivesaine est donc une gare fictive, aucune gare française hein, ne porte ce nom. C'est l'ancienne gare désaffectée d'Aquigny qui a été utilisée pour le tournage sur la ligne de Rouen à Orléans. Le tronçon concerné a été fermé en 1950. Et la scène où Burt Lancaster, en fait un cascadeur hein, de l'équipe de Claude Carlier, du nom de Jean Chardonneau, escalade les francs abrupts d'une colline dominant la voie y est tournée, et la scène finale du déraillement se situe non loin de la gare de Dreville, aujourd'hui désaffectée. Quant à l'impressionnante scène de télescopage entre deux trains, elle fut tournée en gare d'Aquigny à l'aide de 7 caméras, dont 3 furent détruites accidentellement à cette occasion. Et donc, pour une grande partie, les décors et les accessoires ont été réalisés dans l'atelier de M. René Surtoville à Aquigny. Et plusieurs jours avant le tournage, une équipe de décorateurs a remis en état le bâtiment abandonné depuis plusieurs années. Et puis, ils ont enlevé les antennes de télévision, ils ont installé une sirène d'époque sur un toit. Et un important matériel ferroviaire a été amené, des vieux wagons, des locomotives blindées, camouflées, etc. Et pendant plusieurs semaines de l'automne 63, les habitants vivront au rythme des explosions apocalyptiques et assisteront à de grandioses carambolages et des survols menaçants d'avions d'époque. Donc la plupart des figurants étaient les habitants d'Aquigny. Et il faut savoir aussi qu'il y a une séquence du jour le plus long qui va être tournée au même endroit. Alors toi, qu'est-ce que tu avais pu voir un peu ce tournage-là ou pas?
Eh bien moi, oui, je me souviens d'une scène tournée en 1963. La fameuse scène où la locomotive déraille à l'ancienne gare d'Aquigny. Mmh. J'avais une douzaine d'années, on était parti d'Évreux avec la voiture familiale, à l'époque, jusqu'à Aquigny pour assister au tournage de cette locomotive qui sort des rails.
Ah ouais.
Alors j'ai le souvenir de quelque chose d'assez impressionnant, bien sûr.
Mmh.
Pas d'effets spéciaux à l'époque, mais une vraie locomotive quittant la voie de chemin de fer pour venir se coucher dans le talus.
Ah ouais.
Du grand spectacle pour un enfant de 12 ans.
Oui, disons, ça devait être impressionnant.
C'était impressionnant, oui.
Donc,
ça, c'est un souvenir qui m'est resté bien ancré dans la mémoire, ça.
Bon, et donc, du coup, vous alliez de temps en temps, comme ça, qu'il y avait des tournages de films dans le coin pour voir les tournages. Ton père était un fan de cinéma,
absolument,
ça ?
Donc, j'ai le virus aussi, donc... Tout gamin, dès qu'il y avait l'occasion de pouvoir aller voir un tournage, une scène, hop, on était parti, on y allait.
Bon. Et par exemple, dans une séquence du jour le plus long, tu m'avais parlé quand ça avait été tourné, tu étais
à Grand Camp les Bains. Alors Grand Camp les Bains, c'est une petite station de bord de mer dans le Calvados, à côté de la pointe du Hoc. La fameuse pointe du Hoc. Alors, c'est toujours calme et tranquille, le Grand Camp les Bains, il ne se passait jamais rien. Et cet été-là, Grand Camp était en effervescence. On y a tourné une scène du jour le plus long, donc à la pointe du Hoc. Alors, les quelques hôtels de la station s'étaient pris d'assaut par les acteurs, par les techniciens, par les figurants. Et il y avait même beaucoup d'entre eux qui logeaient chez l'habitant.
Mmh.
Alors ça m'est resté.
Ouais, du coup,
j'avais une dizaine d'années, mais c'était.
Du coup, il y avait du monde partout.
Il y avait du monde partout.
Voilà. Est-ce que tu as reconnu quelques acteurs?
Non,
pas du tout.
Je me souviens pas. Mais...
Voilà, donc c'était.
Et c'était
un peu...
c'était quelque chose aussi. Ça, ouais, le tournage du jour le plus long, ça a été. Voilà.
Donc il y avait une grande effervescence.
Ah, bah, certainement.
Dans Grand Camp.
Ils n'avaient jamais vu ça, et puis je pense que. Plus jamais ils l'ont revu après, c'était fini. La seule et unique fois.
Bon, très bien. Alors maintenant, on va passer à un autre film. Non, Jean, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, c'est passionnant.
Voilà. Donc, on va parler d'un autre film qui a été tourné aussi dans le département, qui s'appelle Le Colonel Chabert. Donc, je vais vous passer la bande-annonce.
Oui, j'en ai reçu. Mais un an après votre mort.
Vous avez fait l'épreuve de notre intimité. Les marques secrètes sur ton corps. Ah, tu veux du tribunal ? Moi aussi ! Et travailler chez Madame Merde au Palais Royal, monsieur Fils.
Voyez-vous, monsieur, j'ai été enterré sous des morts. Et aujourd'hui, on vient enterrer sous des vivants. Des papiers, des tampons, des clés.
Et comment vous marchandez mon retour à la vie ?
Voilà, donc c'était la bande-annonce du colonel Chabert. Donc le lieu de tournage, ça a été dans les différents châteaux en France. Il y a eu plusieurs châteaux, mais notamment celui de Bizy, le château de Bizy à Vernon. Alors c'est un film qui a été réalisé par Yves Angelo, qui est sorti en 1994. Et donc l'histoire, hein, c'est à Paris, en février 1817, 3 ans après la chute de l'Empire, l'avoué d'Erville, interprété par Fabrice Lucchini, reçoit la visite d'un vieillard misérablement vêtu, qui assure être le colonel Chabert, qui est interprété donc par Gérard Depardieu. Il est passé pour mort à la bataille d'Eylau en 1807. Il avait alors contribué à la victoire en conduisant une charge de cavalerie devenue célèbre. Et le vieil homme raconte comment, se réveillant dans un fossé entre des cadavres, il a survécu à ses blessures. Il revient 10 ans après, souhaite réclamer son titre, faire valoir ses droits et revivre avec sa femme, interprétée par Fanny Ardant. Mais celle-ci, durant son absence, s'est mariée avec le comte Ferraud, interprété par André Dusselier. Et les événements ne vont pas tourner en faveur de Chabert. À la noter aussi que dans ce film, Julie Depardieu, donc la fille de Gérard, il joue le rôle d'une jeune domestique. Hein, c'est son premier petit rôle. Alors, le château de Bizy avait également servi à d'autres décors, notamment un film de Jean Delannoy qui s'appelle « Maigret et l'affaire Saint-Fiacre » qui avait été réalisé en 1959. Avec Jean Gabin hein, dans le rôle du commissaire Maigret. Alors d'autres lieux, on va parler après, voilà, d'autres lieux. Je voudrais juste revenir sur la musique de ce film, qui en fait a été faite par Régis Pasquier, qui est un violoniste, célèbre. Mais eh bien, de façon tout à fait étonnante, c'est impossible de trouver la musique du film. Alors j'ai juste réussi à vous trouver la bande-annonce que je vous ai passée tout à l'heure. Et impossible de trouver, que ce soit sur YouTube, tout ça, la médiathèque et tout, de la musique de ce film. Bon, donc tant pis, hein, on vous en parle quand même parce que c'est un bon Vernon, c'est quand même... dans notre quartier, enfin pas loin quoi. Donc,
Mais très très belle musique. Hein. Alors influencée d'une façon terrible par King Crimson.
Ah bon?
De King Crimson. Oui, moi je dis tiens.
C'est pourtant assez classique là, comme ce qu'on a entendu.
Oui, non, mais King Crimson à une époque avait un violoniste et la partie de batterie et la partie de violon, c'est.
Ah bon.
C'est du King Crimson.
Eh ben alors, ouais. Incroyable, incroyable. On en apprend tous les jours avec Jean.
Oui.
Oh non, il nous dit toujours des choses incroyables. Bon, alors un autre lieu, du département, hein, qui a servi de décor à plusieurs films, souvent le même film d'ailleurs qui a été tourné plusieurs fois. Eh bien, c'est Lyons-la-Forêt. Et donc là maintenant, on va vous parler de Madame Bovary. Donc on va vous passer la bande-annonce.
« savoir votre nom, docteur?
Charles Bovary.
Pardon?
Charles Bovary. Mademoiselle?
Anastasie! Madame Afan! Et moi aussi, qu'avez-vous à me donner? Bien dansé, tu étais gracieux. Il y a des choses encore plus mystérieuses en vrai. Le baiser va.
Non, je ne supporte pas.
Donc voilà, on vous a fait écouter d'abord la bande-annonce de Madame Bovary, et puis ensuite, là, ce qu'on entend maintenant, c'est donc la scène finale hein, du film. Alors en fait, c'est Mathieu Chabrol, donc le second fils de Claude Chabrol, qui a composé la musique de ce film-là, mais aussi d'une vingtaine d'autres films et de documentaires aussi. Alors évidemment, dans la scène du bal, c'est pas... Mathieu Chabrol qui a fait la musique, hein, c'est comment
Johann Strauss.
Voilà, c'est ça. Hein, voilà. Bon, qu'on entend souvent dans les scènes de bal d'ailleurs.
Hein. Oui. Voilà. C'est un Gottien, ça.
Voilà,
c'est ça. C'est un bon d'ailleurs.
Oui. Et puis, ses enfants aussi, ça, tout le monde faisait de la musique dans la famille.
Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, Madame Bovary, donc c'est celui en tout cas là qu'on vous a présenté là, c'est un film français de Claude Chabrol qui est sorti en 91, inspiré bien sûr du roman de Gustave Flaubert. Alors, le synopsis du film, ça se passe en 1837, au cours d'une visite chez l'un de ses patients, Charles Bovary, qui est un médecin de campagne normand, s'éprend d'Emma, interprétée par Isabelle Huppert, fille du riche fermier Rouault. Deux mois plus tard, ce dernier, qui sait le docteur veuf et désireux de refaire sa vie, lui offre la main de la jeune femme. Emma, qui rêvait d'une vie de luxe et de plaisir, découvre alors la morne existence des épouses de notables. Et la naissance d'une petite fille, aussitôt mise en nourrice, n'y change rien. Et donc, pour tromper l'ennui, va fréquenter un jeune clerc de notaire, Léon Dupuis, interprété par Lucas Bellevaux, et va dépenser des fortunes en étoffes et en bijoux, accumulant les dettes auprès du sinistre Lheureux. Voilà. Évidemment, pour ceux qui connaissent l'histoire, hein, ça va se finir très mal, quand même, pour cette pauvre Emma.
Oui, pauvre Isabelle Huppert, quand même. Voilà.
Et donc, c'est François Perrier qui fait la voix off. Hein, tout à l'heure, notre professeur Alphonse Sidé vous a expliqué ce que c'était que la voix off, et bien là, on peut entendre donc François Perrier en voix off. Et puis, donc, comme autre acteur, on va retrouver Christophe Palavoie, Jean-Yann, qui interprète le pharmacien, et également Thomas Chabrol, le fils de Claude, donc l'autre fils de Claude, voilà, Chabrol, dans le rôle du fils du vicomte. Voilà. Donc, vous voulez faire des petits Eric,
ah bah oui, moi je me souviens après le tournage du film à Lyons-la-Forêt là, d'être allé justement à Lyons. Il y avait toujours la fameuse fontaine que Claude Chabrol avait fait faire au milieu de la place, mais c'était une fontaine en plâtre, en carton recouvert avec du plâtre, mais c'était superbe. Et à la fin du film, après le tournage, cette fontaine-là devait être démolie et puis il prend la ligne. Et donc les habitants ont insisté pour qu'elle reste, sur place. Et donc elle est restée jusqu'à l'heure. Elle a fini avec l'eau, le froid, tout ça. Elle a fini par se détruire toute seule, mais elle est restée. Les habitants ont voulu qu'elle reste. C'était un symbole en fait du tournage. Ils étaient contents de voir cette fontaine. Elle est restée. Là.
Bah oui, parce qu'ils avaient refait évidemment un peu.
Bien sûr, et puis ils avaient refait toute la place avec des façades en carton, des choses. C'était superbe.
Bah oui.
Et la fameuse fontaine est restée jusqu'à temps qu'elle pourrisse, qu'elle se détruise toute seule.
Alors, voilà. Du coup, là, on va vous faire écouter comment l'interview des habitants de Lyons-la-Forêt au moment du tournage du film.
Lyons-la-Forêt est devenu un véritable chantier. Tout doit être prêt, en effet, pour le premier tour de manivelle prévu pour le 21 septembre prochain. Déjà en 1933, le tournage de Jean et Pierre Renoir avait créé une certaine atmosphère.
Énormément. Il y avait déjà 200-300 figurants, ne serait-ce pour le comice. Ça avait été quelque chose d'important. Les personnes âgées s'en souviennent. On tournait même certains dans le film.
Les Renoirs faisaient marcher le commerce local aussi.
D'une manière importante. Ils étaient installés au Grand Cerf pour le casse-croûte le midi, enfin même le soir certainement.
Est-ce que vous avez lu le roman de Flaubert, Madame Bovary ?
Non, je ne l'ai pas lu. Mon fils est en train de le lire et je vais prendre la relève après.
Difficile de se repérer dans ce village où les commerces deviennent maisons individuelles et inversement. Heureusement, comme un fromage célèbre, c'est écrit dessus, chaque commerce est provisoirement étiqueté. Tous les comédiens sont déjà sur place.
J'ai proposé à l'hôtel qui est dans le village d'héberger Chabrol, Huppert, Jean-Yann, Malavoie, Balmer, qu'elle a refusé. Mais bon, ça c'est un autre problème.
Paul et Jacques Varardon avaient 18 ans en 1933, le 27 août très exactement, lorsque Pierre et Jean Renoir sont venus tourner Madame Bovary. Pierre interprétait le rôle du docteur Bovary, Valentine Tessier, celui de Madame Bovary. Les Vardon, quant à eux, étaient figurants.
Oui, j'ai figuré avec mon épouse. D'ailleurs, c'est là où nous avons fait connaissance plus intimement, parce que nous connaissions de vue depuis de nombreuses années. Mais ce jour-là, nous avons pris contact avec d'autres estivants également. Et puis, ça s'est poursuivi quelques années, après la suite. Et puisque finalement, nous sommes mariés en 1938, en somme, à la suite de cette rencontre faite avec Jean Renoir et pour Madame Bovary. Voilà.
Voilà, comme dit le monsieur. Alors effectivement, il y a plusieurs films, le même film, Madame Bovary, qui ont été tournés à Lyons-la-Forêt. Voilà, vous en saurez un peu plus dans la chronique d'accord et désaccord. Ils vont vous raconter ça. Donc il y a d'autres lieux de tournage pour le film. Par exemple, au château de Breteuil, à Choiseul, à Versailles aussi. Il y a une ou deux scènes seulement qui ont été tournées à Rouen. Et donc, à Lyons, il y a le tournage dans les Halles. Toutes les maisons autour avaient été repeintes, etc. Et puis, Eric, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait eu une avant-première au cinéma Rex, l'époque. Donc, en présence de Claude Chabrol, d'Isabelle Huppert et Jean-Yann. Voilà.
Jean-Yann, ouais,
donc,
oui.
Tu avais assisté, non, à cette...
Non, malheureusement, mon père avait assisté. J'ai des photos à la maison.
Pour attester de la chose. Mais moi, j'y suis allée à cette avant-première. Et donc, je me rappelle bien, effectivement, la présentation.
Ah, c'était un grand moment, ça. C'était super.
Donc, c'était...
Bien sûr.
C'était très bien, voilà. Bon. Donc, maintenant, on va vous passer Cinémascopie, où Tatiana va vous parler de ce que c'est que les que c'était qu'une salle de cinéma paroissiale dans le temps.
Dans les années 30, les loisirs étaient rares. Les gens n'hésitaient pas à faire parfois jusqu'à 4 km à pied pour se rendre au cinéma. Après avoir longtemps marché dehors dans le froid, ils avaient l'impression qu'il faisait chaud dans la salle. Mais en réalité, celle-ci était tout juste chauffée par un poêle qui était placé au centre de la pièce. Et sa maigre chaleur se dissipait dès qu'on ouvrait les portes afin d'évacuer la fumée qui emplissait la salle. Aussi, les femmes venaient-elles chaudement habillées, en portant sous les bras des briques chaudes qu'elles plaçaient sous leurs pieds pendant la séance. Et pendant les entr'actes, les hommes se groupaient autour du poêle ou au fond de la salle pour griller une cigarette. Les premières offraient des chaises placées sur la scène et les secondes étaient constituées d'une série de bancs disposés sur le sol en terre battue. L'écran était composé de morceaux de tapisserie argentée tendus par des tringles à rideaux en bois. L'ensemble n'avait rien d'élégant ni de prestigieux, mais le plaisir de vibrer ensemble, d'interpeller les personnages à haute voix et de partager un bon moment compensait largement toutes ces imperfections.
Voilà, donc ça a bien changé hein, maintenant des salles de cinéma, ouais, les grands multiplex et tout. Donc, alors maintenant, on va parler d'un autre endroit du département où a été tourné de nombreux films, là. Donc, c'est au Moulin d'Andée. Hein. Alors, ont été tournés Judex, par exemple, La Belle Nivernoise, Le Combat dans l'île, L'Oiseau moqueur, Souvenir secret, Les 400 coups aussi, hein, quelques films, quelques scènes des 400 coups. Je suis Pierre Rivière. Ou encore, bien sûr, le fameux Jules et Jim. Voilà, un petit commentaire sur Jules et Jim tout de suite, non? Où on passe la chanson de Jeanne Moreau.
Très beau film.
Ouais, allons-y pour la chanson.
Allez, un petit coup de tourbillon.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe, 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 ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Ben, y a une très belle chanson, hein, de... Alors, c'est Serge Rezvani, alias Cyrus Bassiac, et bon, bah, l'interprétation de Jeanne Moreau, la très belle voix, elle est très très émouvante, Et ce morceau, qui était un morceau de cinéma, bah, est passé carrément un standard de la chanson, quoi. Bah,
tout à fait, ouais.
Ah, oui. Bon, après, on l'entendait à la radio et c'était un vrai plaisir. La belle chanson française, on est capable de la faire et de la chanter nous-mêmes.
Alors la musique du film, elle a été composée par Georges Delerue, dont on va à qui on va consacrer la prochaine émission d'ailleurs. Mais là, c'est Serge donc Rezvani qui
voilà, oui, qui a eu le droit de placer. Bah, c'était qui, tellement
qui a,
beau.
Qui a écrit la chanson ouais. Le Tourbillon. Alors il joue d'ailleurs le personnage d'Albert dans le film. Et il avait écrit cette chanson quelques années plus tôt, d'ailleurs, en référence justement au couple que formaient à l'époque Jeanne Moreau et son compagnon Jean-Louis Richard, qui était aussi le meilleur ami de Serge. Voilà. Alors, Jules et Jim, voilà, tout le monde connaît ce film, hein, réalisé par François Truffaut, qui est adapté du roman Commandant Henri-Pierre Rocher, qui est sorti en 62. Donc le synopsis du film, c'est Paris avant la Première Guerre mondiale. Jim, interprété par Henri Serre, un Français, et Jules, Oscar Werner, un Autrichien, sont des amis inséparables. Mais ils vont tomber amoureux de la même femme. Et donc Catherine, interprétée par Jeanne Moreau, de la même femme, Catherine, pardon. Mais c'est Jules que Catherine, en fait, va épouser. Et après la guerre, Jim rejoint le couple en Autriche. Catherine avoue qu'elle n'est pas heureuse avec Jules, lequel accepte que sa femme prenne Jim pour amant. Voilà. Mais Catherine est éternellement insatisfaite et change sans cesse d'avis sur son choix amoureux. Voilà. Ce qui n'est pas forcément facile non plus pour ces deux hommes. Voilà. Donc, là, on va entendre Michel Subor qui fait la voix off, hein, donc la voix du narrateur. Alors, Jules et Jim, ça constitue un parti pris esthétique hein, de François Truffaut, car plutôt que de remplacer les scènes difficilement adaptables du roman par des scènes équivalentes, un procédé qu'il avait dénoncé déjà dans un article qui est dans une certaine tendance du cinéma français, eh ben, Truffaut a préféré faire dire en voix off hein, les passages du roman de Pierre-Henri Rocher, donc par Michel Subor. Et ce procédé permet de rendre à l'écran la saveur littéraire du roman. Voilà. Donc, petit rappel quand même pour Jeanne Moreau, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, là. Hein, il y a quelques semaines.
Bah, le mois dernier.
Voilà, oui. Le mois dernier.
C'est tout récent.
Voilà. Hein. Donc, une grande actrice quand même du cinéma français.
Oui, une de nos plus grandes. Hein, ouais.
Voilà. Et donc, à qui on va consacrer bientôt hein, une émission, parce qu'elle a fait quand même beaucoup de chansons dans les films. Et donc, voilà, on lui consacrera...
Elle le mérite bien, oui.
Voilà, toute une émission pour elle, voilà. Donc, on a d'autres coins du département hein, qui ont servi aussi de lieux de tournage. Par exemple, Conche ou le Neubourg, où les habitants verront le tournage du Rosier de Madame Husson, par exemple, avec Bourville, qu'on retrouve aussi dans le Trou Normand. Alors là, on va vous passer donc un petit extrait, donc la chanson qui est interprétée par Bourville dans le Trou Normand, hein, qui s'appelle Les Enfants Fanfans. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure chanson de Bourville, mais bon, voilà, elle était dans le film, alors on va l'écouter.
Allons les enfants, silence. On va chanter une chanson en chœur. Alors, vous y êtes, écoutez. Quand on demande aux petits enfants, fan, 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 s'ils sont venus par la cheminée, né, 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 ils vous répondent, c'est évident, don, 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 en suçant dur et glissé du cachou, chou, 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 fan, fan, né, né, don, don, chou, chou. Fon fon néné dans chouchou.
C'est maman. C'est papa. Ils nous ont appris tout ça. C'est maman. C'est papa. Ils nous ont appris tout ça.
C'est très bien. Les enfants se réveillent très tôt, 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 tôt. La maman leur peigne les cheveux, veux, 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 veux. Mais le soir, ils reviennent crotter, té, 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 té. Le nez sale et de la boue jusqu'aux genoux, nous, 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 nous. Toto veut veut tété, nounou. Toto veut tété, nounou. Ah, c'est maman, ah, c'est papa.
papa qui nous ont appris tout ça.
On s'amuse bien.
C'est maman. C'est maman. Qui nous ont appris tout ça.
Quand ils savent qu'on ne les voit pas, papa, papa, ils s'en vont grimper sur le buffet, fait, 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 pour chipper. Oh, les petits chenapans, pam, 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 la tirelire où l'on garde leurs écus, cu, 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 cu. Papa, fait, fait, pam, pam, cu, cu. Papa fait pam, pam, cu, cu. C'est amusant, ah.
C'est maman. C'est maman.
Qui nous ont appris tout ça.
Ah, c'est maman.
Ah, c'est maman. Ils ont appris tout ça. Mais tous les parents sont satisfaits, fait, 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 fait. Ils n'ont pourtant jamais de répit, pi, 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 pi. Les enfants, ça donne du tracas, ca, 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 ca. Avec eux, plus un instant de repos, po, 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 po.
Fait, fait, pi, pi, caca, popo.
Fais pipi caca popo.
C'est maman. C'est maman.
Ah, ils nous ont appris tout ça.
C'est maman.
Ah,
c'est maman.
Ah, ils nous ont appris tout ça.
Et bien sûr, ces très belles paroles de Jean Boyer, pour connaître.
Hein. Donc, était le réalisateur du film.
Oui, bon, bah, Bourville chante, mais dis donc l'orchestre, là, derrière. Ça ressemble sérieusement au collégien de Réventura. Et je vois compositeur Mistrakis, qui était le pianiste de Réventura.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est bien dans l'esprit.
Oui, tout à fait, c'est carrément les collégiens derrière. Hein,
mais c'est une belle chanson, quand même. Et on a toujours autant de plaisir à l'écouter.
Voilà, à écouter Bourville. Bah, dans la prochaine émission, on parlera un petit peu plus longuement de Bourville, pour d'autres films là, parce que c'était aussi là par exemple les 100 ans de l'anniversaire de Bourville, voilà. Donc on en parlera la prochaine fois, voilà. Donc alors le Trou Normand a été tourné en partie à l'Hôtel de France, à la Vieille Lyre et à la salle des fêtes de Breteuil pour le bal, et aussi à Conches, voilà. Donc là, pareil, tu étais un peu trop jeune, Eric, hein, pour pouvoir assister.
Oui, j'avais 2 ans.
Voilà, 2 ans, voilà. Vraiment, Donc, voilà.
C'était... Là, je peux vous dire que je n'y étais pas, là.
Alors, le film a été réalisé donc, par Jean Boyer, sorti en 1952. Et donc, l'histoire, hein, c'est Hippolyte Lemoine, interprété par Bouville, qui est un béné d'une trentaine d'années, naïf, à l'esprit enfantin, qui vit dans un village de Normandie. Alors, Courteville, qui a un nom fictif, qui est la Vieille Lyre en réalité. Voilà, lorsque son oncle Célestin meurt, il laisse par testament sa fortune et son auberge, le Trou Normand, à son neveu Hippolyte. Mais à la condition expresse que celui-ci passe son certificat d'études dans un délai d'une année. Et pour atteindre son but, il devra déjouer les manigances de sa tante Augustine, interprétée par Jeanne Marquen, belle-sœur et maîtresse du défunt, qui croyait hériter à sa place et cherche à le faire échouer en se servant de sa fille Javotte, interprétée par Brigitte Bardot dans son premier rôle. Alors Javotte, c'était pas le nom d'une méchante sœur là dans Cendrillon, ça ?
Eh oui ! Voilà, hein. Oui, c'est vrai.
Voilà. Elle me semble bien.
Et donc, alors, il est soutenu par de nombreux habitants du village, hein, dont le maire, interprété par Noël Roquevert, l'instituteur, Georges Baconnet, et surtout la fille de ce dernier, elle aussi institutrice, sous le charme de laquelle Hippolyte va tomber. Voilà. Alors, juste pour la petite anecdote, hein, c'est que bien qu'il ait interprété beaucoup de rôles de béné à l'écran, Bourville était quelqu'un d'extrêmement fin et intelligent. Et d'ailleurs, il avait passé son certificat d'études à 14 ans en étant le premier du canton. Hein. Donc, il était bien loin devant le béné Hippolyte qu'il interprète à l'écran. Donc, est-ce que vous avez des petits commentaires à faire sur ce film ? Non ? À part Brigitte Bardot, voilà, qui était...
C'est un film qu'on regarde encore avec beaucoup de plaisir. C'est vrai que revoir La Vieille Lyre, mettons, dans les années 50, c'était merveilleux, ça. On avait l'impression que la vie était belle.
Voilà.
Que tout était parfait.
Pas de fausse nostalgie, là, voilà.
Ah bah si.
Allez, alors on va écouter Accords et désaccords, et Paul et Sophie vont nous raconter voilà, tous les dessous des tournages.
C'est à moi que tu parles ?
Vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ?
Bonjour à tous, chers auditeurs.
On est Paul et Sophie, bienvenue dans Accords et désaccords.
Et aujourd'hui, anecdote sur les films tournés dans notre département. L'heure du cinéma.
Commençons par La Bête humaine qui a été tournée la même année que Le Quai des Brumes.
Jean Renoir prend certaines libertés en adaptant le roman de Zola, puisque l'action du film se déroule à l'époque contemporaine, l'action est nettement simplifiée par rapport à l'imposant roman de Zola.
Le film est tourné en 1938, peu de temps avant la création de la SNCF. Les locomotives ne portent pas encore les nouvelles immatriculations et les voitures de voyageurs affichent encore le mot « État » sur leur flanc.
Fritz Lang a réalisé un remake de ce film sous le titre de « Désir humain » en 1954.
Toujours sur les rails avec le film « Le train », d'ailleurs le film commet une erreur du point de vue historique en mettant en scène les gares Lorraine de Moselle sous leur nom français « Metz Saint-Avold ».
De même, le train continue de rouler à gauche alors qu'en Alsace-Moselle, la circulation s'est toujours faite à droite à l'allemande depuis 1871.
L'acteur Burt Lancaster profita d'une journée de repos en cours de tournage pour jouer au golf et s'y blessa la jambe.
Il fut décidé de rajouter une scène où Lancaster recevait une balle dans la jambe pour qu'il puisse tourner les scènes restant en clodigan.
Pour le film Le Colonel Chabert, nouvelle d'Honoré de Balzac, tourné en 1995, il est nominé au César de la meilleure première œuvre, meilleure photographie, meilleur costume, meilleur décor, meilleur acteur pour Gérard Depardieu et meilleur second rôle masculin pour Fabrice Luchini.
Pour Madame de Bovary, plusieurs versions. Celle de Jean Renoir en 1933, Vincenti Minnelli en 1948, Claude Chabrol en 1990 et Sophie Barthez en 2015. Plus une version franco-anglaise en 2014 avec Luchini et quelques versions télévisées.
Pour le film Jules et Jim, le tournage n'a duré seulement que deux mois, du 10 avril au 10 juin. En 1964.
Le film est adapté du roman du même nom de Henri-Pierre Rocher, sorti en 1962. François Truffaut place dans le film 13 reproductions de tableaux de Pablo Picasso. Les tableaux sont à la fois des marqueurs temporels et des indications reflétant l'état d'esprit et les transformations des personnages au premier plan.
Jules et Jim est aussi évoqué dans le film The Bubbles d'Ethan Fox, dans le film aussi des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Il y a aussi un clin d'œil dans la série Queer as Folk, dans le film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain et dans le film Une femme est une femme de Jean-Luc Godard.
Et pour finir sur la région, dans le film Un homme et une femme, tourné à Deauville, Anouké Aimé prend le train pour Paris avec un changement à Évreux. Et dans le film La Boum, Vic doit partir pour le week-end chez sa grand-mère à Évreux.
Accord et désaccord, c'est terminé. À bientôt dans Soundtrack.
Ciao.
Je fais un sale métier, mais j'ai une excuse.
Qu'est-ce que c'est que cette armure ?
Ma trousse d'urgence, des mèches et des vrilles de secours.
Les bijoux, c'est toi ?
Au voleur !
Un beau à voler, mais je n'oserais jamais le mettre.
Il va mieux sur vous que sur moi.
C'est plus fort que toi.
C'est plus fort que vous. Plus fort que tout.
Voilà, alors je ne sais pas si vous avez reconnu là, mais c'était la bande-annonce d'un film qui s'appelle Le Voleur. Donc, a été tourné à Évreux, là. Donc, on arrive à Évreux. Il n'y a pas grand film qui a été tourné sur Évreux directement, d'ailleurs. Mais donc, ce film-là a été un film de Louis Malle qui est sorti en 67. Et donc, la musique du film, en fait, a été écrite par Henri Lanoé. Henri Lanoé, en fait, qui était monteur, compositeur, scénariste, acteur et réalisateur. qui est né en 1929. Alors, il est surtout connu comme monteur. Il a d'ailleurs été nommé 8 fois au César dans la catégorie meilleur monteur, sans jamais d'ailleurs être récompensé. Et il avait travaillé principalement sur les films réalisés par Jacques Doré et Philippe de Broca. Et il a notamment composé la musique de 5 films, donc dont Le Voleur et Les 40e Rugissants de Christian de Chalonge. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film. Là, les... voilà.
Ouais, un beau film.
Un beau film, moi, ça m'a
Les 40e Rugissants, ouais, voilà. Il y avait...
Jacques Perrin, non dedans?
Jacques voilà, Perrin qui jouait dedans, ouais. Ouais.
Voilà. Donc là, alors là, de façon aussi tout à fait inattendue, eh bien impossible de trouver la musique d'Henri Lanoï. Alors j'ai cherché partout, voilà, impossible à trouver. Donc c'est pour ça que on vous a juste passé voilà la bande annonce, mais on pouvait pas faire une impasse quand même sur Le Voleur, hein, dans qui a été tourné à Évreux. Donc l'action principale se déroule au début des années 1890. Donc une nuit, un Georges Randal, interprété par Jean-Paul Belmondo, alors qu'il cambriole une villa, revient sur sa carrière de voleur. Et orphelin sous la tutelle de son oncle, il revient à Paris une fois ses études terminées, où il pense épouser Charlotte, interprétée par Geneviève Bugeaud, donc sa cousine, mais ne l'attendent que des désillusions. L'oncle a détourné sa fortune et sa cousine est promise à un autre. Donc évidemment, c'est pas terrible. Et donc lors de la soirée des fiançailles, par dépit et par vengeance, il va voler des bijoux et s'enfuit. Charlotte connaît l'identité du voleur, mais ne dit rien. Et dans le train qui l'en éloigne, il va retrouver l'abbé Lamargelle, interprété par Julien Guillaumard, rencontré lors de la soirée, qui dirige une bande de truands à Bruxelles. Il présente Georges à Roger Lahonte, cambrioleur émérite, qui va devenir son professeur. Et à mesure que son expérience et sa renommée s'affirment, il va devenir une figure importante des milieux Interpol. Et donc, voilà, le tournage, une petite partie du tournage va se passer donc à Évreux, à l'hôtel de la Biche, et donc est sur la place Saint-Aurin. Et donc là, Eric, t'étais en âge d'assister
ah bah oui. Alors ça,
le tournage. Alors raconte-nous. Bah
j'avais 16 ans à l'époque, donc le tournage à l'été 66, je m'en souviens très bien. En plus, j'avais la chance d'habiter pas très loin de l'église Saint-Aurin et de l'auberge de la Biche. Donc, chaque jour, on allait voir le tournage du voleur. Il tournait souvent fin d'après-midi et puis assez tard dans la nuit même. Il y avait des scènes de nuit et tout ça. Mm-hmm. C'était superbe. Il y avait du monde, il faisait beau. On voyait Belmondo. J'ai même vu Ursula Andress.
Ah,
parce
bah
que
oui,
c'était l'époque.
Quand même.
C'était l'époque où.
Oui, elle était mariée avec Truffaut, ça.
Oui, elle vivait avec Belmondo. C'était la grande époque où ils étaient ensemble. Donc
je me trompe.
Elle était sur le lieu du tournage et tout ça. C'était vraiment bien, ça. Ouais, on pouvait être figurant en plus. Il y a beaucoup. Moi, j'avais beaucoup de copains, beaucoup d'amis qui ont fait la figuration et c'était bien payé à l'époque.
Voilà ça, parce qu'il y a plus de 200 Ébruissiens qui ont fait des figurants. Voilà. Alors qu'il y avait des gens sur la place. À un moment donné, il y a une scène sur la place. Alors... Et puis il y a la fameuse scène du banquet à l'intérieur de l'hôtel de la Biche.
Il y avait du monde. Il y avait des figurants. Hein. Voilà. Tout le monde en costume. C'était vraiment quelque chose.
Ça. Voilà, donc ouais. Hôtel qui a brûlé il y a une dizaine d'années maintenant, qui n'existe plus. Mais qui était donc, classé quand même au monument historique.
Ah bah,
et qui
fait.
Était, comment, donc avec cette grande galerie
tout autour,
c'était très joli.
On peut le revoir dans le film, bien sûr, c'est resté... Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il suffit de regarder le film pour voir l'intérieur de l'hôtel de la Biche.
Pour voir comment c'était.
C'était merveilleux, c'était beau comme tout.
Donc voilà, bon alors les missions se terminent maintenant, on n'a plus beaucoup de temps. Alors il y a Marguerite Duras aussi qui avait oublié, qui avait tourné un film, qui s'appelle La Musica, qui a été tourné en 66. Et dans le film, il y a un personnage du film. En fait, il y avait peu de personnages. Il y avait Robert Hossein, Delphine Seyrig, Julie Dassin et Gérard Blin. Donc, il y a un tournage qui se passe sur la place de la gare. Et dans le film, il y a un personnage qui dit « Évreux, ville de province où tout est fermé le soir. Voilà. Donc, triste.
Ça n'a pas beaucoup changé.
Ça n'a pas changé beaucoup. Voilà. Non, c'est toujours un petit peu comme ça.
Voilà. Donc, alors bon, il y a plein d'autres films qui ont été tournés dans le département. Donc là, on vous a pas forcément parlé des plus récents, mais voilà. Donc ça donnait
des plus célèbres.
Voilà, ou des plus. Voilà.
Ça, ce sont les plus célèbres quand même.
Voilà. Donc en tout cas, bien merci de votre écoute. Merci à Eric d'être venu pour nous faire part. Et partager ses souvenirs.
Mais merci à vous de m'avoir invité.
Voilà. Et donc, bien, on va se retrouver donc, dans 15 jours, où là, on parlera donc, de Georges Delerue. Voilà. Donc, et bien, à très bientôt. Et bonne écoute, alors, sur Principe Actif. Yeah.